Chapitre 76. Tous les bateliers, les pêcheurs et les capitaines fluviaux avaient été prévenus de s'éloigner d'Île Dakar. Quand Elsa activerait son sort de transfert, les effets secondaires risquaient d'être dangereux pour tout le monde. Penchée avec Bannon au bord d'un tunnel de transport, Lila étudiait la falaise d'un œil critique. C'était la première fois qu'elle voyait la rune et elle ne semblait pas ravie.
« Je n'aurais pas dû t'autoriser à faire l'acrobate. » C'était risqué et j'ai promis de te protéger.
Il y a plusieurs façons de combattre.
Très fier, Bannon désigna le dessin rouge géant sur la falaise.
Il fallait que je participe.
Oui, mais tu aurais pu tomber.
Lila, je ne suis pas idiot. Ici, nous ne risquions rien. La bataille se déroule dans la plaine et je m'inquiète pour nos amis. Ce qu'ils vont faire est bien plus dangereux que se balancer au bout d'une corde, un pinceau à la main.
Nathan m'a bien eu sur ce coup-là. J'aurais voulu être avec lui. « Ton ami a tenu à te protéger,
et il m'a ordonné de veiller sur toi.
Bien entendu, je lui obéirai. Au cas où tu l'aurais oublié, 12 de mes sœurs sont là dehors. Du coup, la mission ne peut être qu'un succès. »
Bannon posa une main sur la poignée de Solide, toujours accrochée à sa ceinture.
« Et si elle échoue parce qu'un guerrier de plus aurait pu sauver un sorcier ou une magicienne, imagine que Nathan ait besoin de moi. »
Tu crois que je ne partage pas tes inquiétudes?
Moi aussi, j'aurais voulu en être.
Les quatre peintres qui menaient l'inspection désignèrent des parties de la rune un peu délavées par les pluies de la nuit.
Faites des retouches, vite!
Lança Bannon.
L'action doit être déjà commencée, et quand Elsa activera son sort, vous aurez intérêt à ne plus avoir le nez contre la falaise.
Habitués au vide, les quatre jeunes types évoluèrent avec une aisance désinvolte. Quand ils eurent terminé, ils se réceptionnèrent sur une plateforme, y attachèrent solidement leur pot de peinture à demi-plein, puis s'engouffrèrent dans un tunnel. Se déversant par de gros tuyaux, les eaux de pluie collectées par les égouts coulaient le long de la falaise avant de finir dans le fleuve. Devant ce spectacle, Bannon eut une étrange prémonition. On eût dit qu'Île Dakar pleurait et que ses larmes faisaient briller davantage la grande rune rouge. Bannon repensa à la statue géante qui dominait le port de Sérimundi. Devant cette statue de Merle à Mer, la première fois qu'il l'avait vue, il avait éprouvé le même genre de prémonition. Alors que le randonneur des vagues passait devant cette merveille, s'était-il agi d'une sorte d'avertissement relatif au sinistre destin du bateau, attaqué par les Selka, puis naufragé peu après? Selon Nathan et Nietzsche, depuis le changement stellaire provoqué par le Seigneur Ral, les prophéties, les prédictions et les prémonitions n'existaient plus. En d'autres termes, elles étaient bannies du monde des vivants. Avait-il une sorte de don qui n'aurait jamais été découvert dans l'histoire? Vraiment, c'était peu probable. Lui, un cultivateur de choux. Du coup, quand il frissonnait, ce devait être parce qu'il faisait froid, tout simplement. À part son pagne, sa bande de cuir sur les seins et ses sandales, Lila ne portait rien. De la rosée s'était déposée sur sa peau, mettant en valeur ses runes de protection.
« Tu n'as pas froid ?»
demanda le jeune escrimeur.
« Non, jamais. »
De leur perchoir, les deux jeunes gens virent la brume se dissiper sur le fleuve à mesure que la matinée s'éclaircissait. Tendant l'oreille, Bannon capta le bruit lointain du courant et autre chose qu'il n'identifia pas. On eût dit des battements de cœur, mais... Intriguée, Lila se pencha vers le vide.
« Des tambours ?»
dit-elle après un court silence.
« Beaucoup de tambours. Et ils approchent, vite. Quelqu'un vient. »
Bannon tendit le cou pour mieux voir et perçut un changement dans l'air. Quelque chose d'énorme, bien qu'indéfinissable. D'instinct, il se rapprocha de Lila. « Ensemble. » Les yeux écarquillés d'horreur, ils virent apparaître une galère aux voiles sombres dont les rames plongeaient en cadence dans l'eau.
« Les tambours !» souffla Lila. « C'est pour donner le rythme aux rameurs !»
Les Norukai. Quelque temps plus tôt, trois navires avaient déboulé avec leur cargaison d'esclaves. À ce souvenir, Bannon bouillait encore de rage. Là, ce n'était pas un trio de galères, mais une armada qui remontait le fleuve. Aucune chance qu'il s'agisse de marchands cette fois.
Douce mère la mer, ils ne viennent pas vendre des esclaves. C'est une invasion.
La haine du jeune escrimeur pour les Norukai ne s'éteindrait jamais. À Renda-sur-Bay, pris de folie meurtrière,
Il en avait tué des dizaines. Ici, il avait dû supporter ses ignobles esclavagistes jusqu'à ce qu'il craque en défi 3 près des abattoirs, se fasse rouer de coups puis finisse dans les fosses de combat. Le son des tambours devint de plus en plus fort. Les premières galères approchaient des quais. Prêts à semer la terreur et la mort, des milliers de Norukaïs poussèrent leurs cris de guerre. « Lila, nous devons donner l'alerte. Il faut détruire les quais et faire défendre tous les tunnels. Ildakar est attaqué !»
Après le départ d'Elsa et des autres chefs d'équipe, Damon et Quentin se retrouvèrent seuls dans la tour du pouvoir. Craignant de devoir lancer leur plan de secours en cas d'échec, ils jugèrent prudent d'approfondir les préparatifs juste au cas où. Certes, Nietzsche, via la Slif, était parti prévenir le reste de l'Ancien Monde, mais quoi qu'il arrive, Damon l'aurait juré, elle ne reviendrait pas avec des renforts, Ildakar devrait s'en sortir seul. Après avoir évoqué avec Thora la possibilité de générer un nouveau linceul, les deux sorciers, sans consulter les autres membres du Douma, avaient entrepris de reconstruire le matériel requis. Modeleur de son état, Damon avait fabriqué un creuset géant, un miroir et des drains identiques à ceux qui équipaient naguère la pyramide. Pendant que les autres conseillers d'Ildakar s'acharnaient sur un plan désespéré, Quentin et Damon, pragmatiques, faisaient ce qu'il fallait pour sauver Ildakar. Si tout le reste échouait, leur solution s'imposerait. La manœuvre d'Elsa, en cas de succès, porterait un coup terrible à l'ennemi, mais il y avait trop d'éléments aléatoires. De plus, les destructions risquaient de ne pas être suffisantes. Un air déjà connu. L'étoile du berger des deux sorciers, c'était le réalisme, et... Déboulant dans la salle du conseil, rouge comme une pivoine d'avoir couru, Bannon, le jeune escrimeur, lança « Les Norukaïs, des dizaines de galères et des milliers de guerriers, il faut défendre la falaise !»« Mon gars a raison, » dit Lila. « Ces Norukaïs ne sont pas là pour commercer, c'est une invasion. » Très pâle, Damon regarda Quentin. S'ils étaient restés en arrière, c'était pour faire face à une menace de ce genre. Quentin mit une main devant sa bouche comme s'il allait vomir.
« Depuis toujours, ces esclavagistes me dégoûtent. »«
Dans ce cas, il n'aurait pas fallu traiter avec eux, » grogna Bannon. « Ces monstres veulent nous tuer tous. Ils viendront du fleuve et nous devons les arrêter. Il nous faut votre feu de sorcier et vous devez activer les pièges magiques sur la falaise, sans tarder. »
Voyant Damon hésiter, le jeune homme explosa.
« Douce mère la mère, vous êtes sourds tous les deux. Ils sont des milliers, ils attaqueront bientôt.
Qu'on donne l'alerte !»
dit enfin Quentin. Damon revint lui aussi au moment présent.
Mobilisation générale. Tous les combattants encore en ville doivent repousser les Norukaïs.
Une réaction dictée par le bon sens. Oui, mais plus en profondeur, il y avait autre chose. N'était-ce pas la preuve de l'utilité du linceul? L'unique défense impénétrable et définitive? Quand il entendit sonner les cloches dans les rues, Damon eut le sentiment qu'elles appelaient les sacrifiés comme au temps de la pyramide. Prenant Bannon par le bras, Lila l'entraîna vers la sortie. Sur la falaise, on aurait besoin d'eux. Lorsqu'il regarda Quentin, Damon devina qu'il en était arrivé à la même conclusion que lui.
« Si le plan d'Elsa fonctionne, Outros ripostera et nous n'en finirons jamais. Et voilà que les Norukaïs s'en mêlent. S'ils entrent en ville, ce sera la fin. Nous n'avons plus le choix, mon ami. » « C'est évident. Nous allons convoquer les volontaires dans l'arène et les gardes enrôleront de force les éléments manquants. Le sang des détenteurs du don étant de meilleure qualité, nous leur ordonnerons de sélectionner des nobles sans grande utilité. L'heure n'est plus à finasser et le temps presse. Pour verser tant de sang, il ne faudra pas traîner. » Surtout en ayant sur la gorge le couteau des Norukaïs.